Small details or big surfaces, tight corners or odd shapes, flat, rounded, textured, or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. Because Rust-Oleum's new Custom Spray 5-in-1 gives you control with 5 different spray patterns. So you can tackle nooks, crannies, edges, and curves without worrying about drips, runs, uneven coverage, or anything else. Custom Spray 5-in-1. Only from Rust-Oleum.
Une production Binge Audio, évidemment.
Isaac, pourquoi tu parles sans arrêt?
Il m'a tapé sur la tête.
Oui, mais ça.
Isaac, tu n'as pas le droit de toucher Owen.
Lui-même, il me l'a fait.
Non, je t'ai pas touché.
Il a rien fait. Il m'a touché.
Être prof en primaire, ce n'est pas seulement enseigner. Les disputes, les bagarres, les cris, c'est tous les jours. Dans la classe, dans les couloirs ou dans la cour.
Est-ce que vous pouvez m'expliquer ce qui s'est passé là?
Bah en fait, on voulait faire un câlin et donc elle a commencé à nous taper.
J'essaye au maximum de les laisser régler leurs histoires entre eux. Mais quand la violence entre en jeu, je dois faire de la médiation.
Bah déjà, j'ai pas donné un coup ici sur le tas.
Quand t'as donné des coups où?
Bah au bras et j'ai serré le poignet de Margot.
Même si les disputes d'enfants nous font parfois sourire, ce ne sont pas des enfantillages, ni un jeu. Ce sont de vrais conflits qui disent la difficulté pour eux de vivre avec les autres et de résoudre leurs désaccords.
Il a dit le jeu, il est qu'à trois. Et c'est elle qui décide.
Non, j'ai pas dit ça.
C'est Dieu.
Non.
Et c'est là que j'interviens. Parce que c'est aussi ça l'éducation à la vie affective et relationnelle. Apprendre aux enfants à vivre ensemble.
Toi, quand tu pleures, je te dis pas arrête de pleurer.
À exprimer ce qu'elles ressentent.
Bah non, parce que moi, c'est pour des raisons vraies.
À accepter qu'on n'est pas tout le temps d'accord.
Je m'en vais, j'ai un point en moi. Je ferai jamais la paix, jamais.
Sans pour autant s'entretuer.
Un grand, t'as faim de doigt d'honneur? Bah, on va aller le voir.
C'est quoi l'amour, maîtresse?
Une série documentaire de Lolita Rivet. Épisode 4, c'est pour ton bien.
L'école, avec la crèche qui la précède souvent, c'est la découverte de la vie en société. On y découvre qu'on doit partager avec d'autres enfants qui ne sont pas de notre famille, les jouets, l'espace, le temps de parole, l'attention des adultes, et puis confronter sa manière de voir les choses avec celle des autres. Le but, ce n'est pas d'annihiler les conflits à l'école. Ils sont normaux et même nécessaires dans les relations. Le but, c'est plutôt de leur apprendre à les résoudre sans violence. Mais quand on regarde les adultes s'y prendre, on voit que ce n'est pas si simple. Si vous prenez votre voiture régulièrement, que vous suivez la politique ou que vous avez des soucis avec vos voisins, vous savez que l'agressivité et les insultes s'invitent souvent dans nos échanges.
C'est que l'Europe n'est pas à la hauteur de la crise économique.
Ta gueule.
Les Français ne les supportent plus et je les emmerde.
Ou peut-être faites-vous partie de ces gens qui adoptent une autre stratégie face au conflit. La fuite. Dans leur essai « Les conflits relationnels », la psychosociologue Dominique Picard et le psychologue Edmond Marc expliquent cette réaction que nous avons tous et toutes.
Tout en étant normal et même utile, le conflit fait peur et on a souvent tendance à le fuir. La raison en est qu'il génère des sentiments négatifs. Anxiété, colère, violence, peur du rejet, de la rupture de la relation. L'agressivité ressentie est projetée sur autrui et l'on se sent menacé. On redoute des blessures pour soi comme pour les autres. Alors, face à ce sentiment de danger et aux affects pénibles qui l'accompagnent, beaucoup réagissent en taisant leurs griefs pour tenter d'éviter l'affrontement et de calmer le jeu.
Calmer le jeu. Pour ne pas ressentir cette tristesse, cette colère, cette frustration ou cette insécurité. Pour ne pas les affronter. On préfère trouver des moyens de les étouffer. Ça peut passer par la nourriture, l'alcool, la cigarette ou les drogues, au choix. Moi, j'ai de la chance de faire un sport collectif qui me permet d'évacuer mon agressivité sur mes coéquipières. Et contre le stress, J'ai cette réaction très saine qui consiste à me gaver de sucre. Comment se fait-il qu'on soit autant rebuté par le fait de ressentir ses émotions, d'affronter ses conflits, alors même qu'ils sont inévitables? Est-ce parce qu'enfant, on nous a jamais appris à le faire? Ou plutôt, parce qu'on nous a appris à les réprimer?
Bon, arrête ton caprice, on rentre à la maison.
Oh, j'en ai marre maintenant, tu arrêtes de crier. Ça suffit maintenant, tu ne fais pas de colère.
Tu arrêtes ta comédie maintenant, tu peux pas te comporter comme ça en public. Donc tu te calmes.
En ne donnant pas de solution alternative, le message qu'on envoie aux enfants, c'est qu'elles ne doivent pas ressentir ces émotions-là, qu'elles doivent les faire taire.
Chut !
Je pense au contraire qu'il nous revient à nous, adultes, de valider ces ressentis auprès de nos enfants, de leur dire que c'est normal et qu'elles peuvent les traverser. Je pars du principe qu'un enfant qui est violent exprime quelque chose qui ne va pas, un surplus d'émotions qu'elle n'arrive pas à surmonter. Alors j'essaie du mieux que je peux de l'aider à le faire.
Tu te rappelles ce qu'on avait dit, que quand on a de la colère et qu'on sent qu'on a envie de frapper, qu'est-ce qu'on fait ?
On prend la colère et on la jette.
Tu trouves quelque chose qui n'est pas tapé les autres.
Sinon,
tu la mets dans ton monstre.
Je ne sais pas s'ils se servent tellement de ce monstre mangeur de colère qu'on avait dessiné, mais j'essaye des choses.
Soit si on sent qu'on ne peut pas se retenir, on part en courant pour que ton énergie de colère, elle se dépense dans tes jambes et pas dans tes mains à frapper quelqu'un. D'accord ? Et rappelle-toi, t'es une petite fille géniale, t'es intelligente, t'es drôle, t'es brillante. Tout le monde t'aime bien.
Mais on t'aimera encore plus si t'étais plus gentille avec nous.
Bah oui, on va y arriver, je pense que tu vas y arriver à force.
Ah oui, et aussi, je ne punis plus mes élèves. Quand j'ai commencé l'enseignement, j'étais dépassée par le comportement de certains d'entre eux. Et il m'arrivait de les priver d'une activité ou de leur faire copier des lignes. Il m'arrive toujours d'être dépassée, évidemment. Mais j'ai compris que punir était inefficace, et même contre-productif. Les enfants punis ne deviennent pas plus respectueux des règles ou plus à l'écoute. Bien au contraire. Ils développent des stratagèmes pour échapper aux sanctions. En mentant, en se cachant. Ils s'endurcissent et la communication est rompue. Désormais, je préfère responsabiliser les enfants. Leur faire prendre conscience de l'impact de leurs mots et de leurs gestes sur les autres. Ça revient à les connecter à leur empathie. Et c'est beaucoup plus efficace.
Là, tu vas me refaire une fiche de réflexion, tu vas m'écrire ce que tu as fait.
À la place des punitions, je demande maintenant à mes élèves de remplir une fiche de réflexion.
Quelles conséquences ça a eu et qu'est-ce que tu aurais dû faire à la place?
Toutes ces histoires prennent beaucoup de temps chaque jour, entre 10 et 30 minutes. Mais je suis persuadée que c'est un gain à long terme. Montrer de l'empathie à mes élèves, les aider à vivre ces émotions difficiles, à trouver d'autres solutions que la violence, c'est la meilleure manière que j'ai trouvée pour les faire grandir.
Qu'est-ce que tu fais? Mais assieds-toi normalement, je comprends pas, tu glisses de quoi? C'est une chaise, pas un toboggan.
Et puis parfois, je ne prends pas ce temps.
Tu peux arrêter de faire du bruit, Clément, c'est possible ou pas?
Parce que je ne l'ai pas, ou bien que je n'en ai pas l'énergie.
Oh, Alicia, stop, c'est moi qui dis, ok?
Il m'arrive aussi de ne pas avoir la patience.
Franchement, ça me donne pas envie de refaire des activités avec vous.
De m'énerver moi-même.
Tu parles en même temps que moi, c'est bon. Ça fait 15 fois que je le dis, c'est pas juste?
D'être excédée, de craquer. Non mais c'est pas possible, mais tu fais exprès.
Pose ces ciseaux,
on ne court pas dans la classe.
Je te l'ai dit combien de fois?
Arrêtez, je peux savoir ce que tu fais là?
Stop, ça suffit.
Oh,
vivement que cette journée finisse.
Voilà, j'en suis pas fière, mais ça fait aussi partie de la réalité.
Oh là là. Stop.
Et je ne peux pas faire la leçon à mes élèves sur comment canaliser leur colère si je ne reconnais pas moi-même avoir du mal à le faire.
Et puis parfois, je crie parce que je suis énervée et que ça me dépasse. Et quand je fais ça, je devrais pas le faire. C'est pas de votre faute, ça, c'est à moi de me contrôler. Et donc, je suis désolée pour ça.
Il faut que tu cries pour nous apprendre des choses.
Est-ce que vous pensez que vous appreniez mieux si je vous crie dessus?
Non, pas du tout.
Oui, mais...
Pas du tout.
On n'apprend jamais par la violence.
Tu cries parce qu'on a fait quelque chose de mal.
Justement, ça nous apprend à crier sur les autres.
Après, on va faire la même chose quand on serait grand. On va penser que c'est pas pour notre bien.
Ma question, c'est est-ce que, si je vous crie dessus, vous arrêtez de faire des bêtises ou de pas écouter la consigne ou...
Ça te donne envie d'encore en faire. On a peur comme Zlatan de crier dessus, t'as peur.
Tu me compares à Zlatan, là, je sais pas comment le prendre.
C'est vrai que je suis plus souvent Zlatan Ibrahimovic que Dalai Lama. Mais je sais que même si j'étais la personne la plus zen du monde, je ne suis pas leur seul exemple. Je ne suis même pas le plus important. Quand je vous dis qu'il y a tous les jours des conflits entre mes élèves, la réalité, c'est que certains de mes élèves ne sont jamais impliqués dans les disputes violentes. Et d'autres le sont systématiquement. Je ne peux pas ne pas me poser la question de ce qu'elles vivent chez eux, de l'exemple qu'elles ont dans leur famille, de ce qu'elles reproduisent.
Je voulais vous demander qui on peut aimer dans la vie.
Notre amoureux ou notre amoureuse.
Notre famille.
Nos amis.
Nous.
Nos sœurs et frères.
Les parents.
Des cousins.
Grands-parents.
Les tantes et oncles.
Aussi les copains adultes.
Notre maîtresse.
J'ai voulu les faire réfléchir aux relations qu'elles avaient aux autres. C'est ça l'éducation relationnelle. En leur demandant ce qui était acceptable et souhaitable dans une relation et ce qui ne l'était pas.
Qu'est-ce qu'on fait avec son amoureux ou son amoureuse et qu'est-ce qu'on fait pas ?
On a mis s'inviter, s'embrasser,
se faire des câlins.
Qu'est-ce qu'on peut faire ou pas faire quand on aime son ami ?
On discute, on joue.
L'inviter à dormir chez nous.
On fait l'amour ?
Oui, quand t'es adulte, tu fais l'amour avec une fille, quand ils sont amis.
Qu'est-ce qu'on fait ou qu'on fait pas avec son enfant quand on l'aime ?
On disait il faut lui apprendre, par exemple à marcher, à respecter les gens.
On peut le protéger s'il y a des ennuis.
De ne pas donner trop de sucre.
Sinon, il ne faut pas qu'il regarde trop la télé.
De lui raconter une histoire.
Il ne faut pas de gros mots.
Qu'est-ce qu'on ne fait pas à son enfant ?
Le taper, lui donner des claques, le tabasser.
L'interdiction de la violence a l'air plutôt claire dans leur esprit. En théorie. Parce que quand on rentre dans le détail...
Donc vous n'avez pas mis qu'il ne faut pas taper. Est-ce que ça veut dire qu'on peut taper son frère ou sa sœur ?
On a le droit.
On n'a pas le droit de faire de la violence.
Pourquoi mes parents me tapent ?
Parce que t'as fait des bêtises, par exemple, alors elle te tape. Elle te dit c'est pas bien.
Peut-être parce que t'es hyper énervant, si jamais, parfois.
Assez vite, les enfants commencent à me raconter ce qu'elles vivent à la maison. Je ne peux pas vous retranscrire leurs paroles telles quelles, pour les protéger, eux et leur famille. Alors, on a fait rejouer la discussion à des adultes.
Ma mère, parfois, elle me pince les joues. Et moi, très peu de fois, elle me claque ici, près de la joue.
Moi, je me suis pris 4 claques derrière le dos. Il m'a fait ça, mon père, juste parce que je lui demandais de me lire une histoire.
Moi, des fois, mes parents, ils tapent mon frère juste parce qu'il a fait une bêtise. Et après, il est tout rouge sur le corps.
Mon père, maintenant, il fait plus les mains en l'air. Il fait la même chose, mais 2 heures. Je fais ça et je reste 2 heures comme ça, quand je laisse pas mes sœurs jouer.
Moi, mon papa, il m'a tapé le dos juste au-dessus des fesses. J'avais plus du tout envie d'être sa petite fille.
Je suis tombée plusieurs fois, j'ai commencé à crier et mon père, il a commencé à me donner des coups sur les jambes avec sa main.
Parfois, ma mère, elle me donne des grosses fessées. Elle a toujours une bague et ça me fait une marque.
Moi, ma mamie, quand je fais des bêtises, elle prend une tapette à mouche et elle me tape les fesses avec.
Quand j'ai eu 5 sur 10, mon père, il m'a donné une énorme fessée.
Je suis bouleversée par tout ce que j'entends. Je pensais pas que les enfants vivaient tout ça. Encore une fois, je n'ai que leur version. Je ne connais pas le contexte exact de ce qu'il s'est passé. Et je peux comprendre qu'avec la fatigue, le stress, parfois, un parent craque. Ce que j'ai du mal à concevoir, c'est qu'on érige la violence, les cris, les tapes, comme un principe éducatif. Malheureusement, ce qu'elle me raconte se vérifie dans les statistiques nationales. D'après le baromètre de la Fondation pour l'enfance, réalisé en 2022, 80% des parents déclarent avoir recours à ce qu'on appelle une violence éducative ordinaire, qu'elle soit physique ou morale. 55% des parents hurlent sur leur enfant. 20% les menacent et les insultent. Un parent sur quatre donne des fessées. Il n'est pas question ici de comparer un cri avec un coup, mais il est important de dire que toutes les violences éducatives ne sont que des degrés plus ou moins graves sur l'échelle de la violence. C'est exactement la même chose que pour les violences sexistes. Entre la blague lourde et le féminicide, il y a un monde. Mais les deux s'inscrivent dans ce que la sociologue britannique Liz Kelly a appelé le continuum des violences. Et parfois, pour les plus jeunes aussi, ces violences mènent au pire. Rappelons que tous les 5 jours, un enfant meurt tué par un parent. Le soir, en rentrant chez moi, je me sens complètement perdue. Maintenant que je sais tout ça, qu'est-ce que je fais de tous ces témoignages ?
C'est pas toi qui leur as dit « tes parents, ils te tapent, hein ?»
Alors j'en parle à mes parents, à moi. Ma mère y connaît quelque chose aux élèves. Elle a été instite pendant 20 ans.
Bah oui, c'est quand tu frappes ton enfant et que l'enfant le dit. Soit tu dis que oui, ton enfant ment. Soit tu dis, bah oui, parce que pour moi, c'est normal de le corriger. Mais oui, c'est pas de ta faute.
Non, c'est sûr.
Mais, oui, mais, vous, mais elle révèle un problème quand même. Elle.
Bah, je me sens un peu entre deux, quoi. Je me sens un peu donneuse de leçons aussi. Eh ben, les parents qui frappaient vos enfants, c'est mal, ouais. Tu vois.
Non, c'est pas donneuse de leçons, tu rappelles juste la loi. C'est juste... sensibiliser les enfants au fait qu'ils peuvent se rebeller contre ça.
C'est que tu sèmes des petites graines dans la tête des enfants
pour que petit à petit ils réalisent qu'il y a des choses qu'on n'a pas le droit de leur faire. C'est déjà énorme. Mais c'est tout ce que tu peux faire. Semer des graines.
Et les premières graines que je peux semer, c'est déjà de les informer sur leurs droits.
Il y a écrit quoi ?
2 juillet 2019.
Alors je leur parle de la loi votée en 2019 en France, qui interdit toute violence physique ou psychologique sur les enfants.
Il y a écrit « Il est interdit de frapper son enfant, de l'humilier, de le menacer. Il est interdit par la loi de le faire. »
Mais aussi de la Convention internationale des droits de l'enfant qui les protège. Et puis du numéro de téléphone qui leur est dédié.
Vous connaissez le numéro ?
119.
Le 119.
Parmi les enfants qui m'ont parlé, il y en a un qui m'a raconté à de nombreuses reprises les violences qu'il subit. Avec son accord, j'ai demandé à rencontrer ses parents. Ils n'ont pas nié, mais ils ont minimisé, en disant que ça arrivait rarement, que leur fils était désobéissant. Et puis que c'était culturel, qu'eux aussi avaient été éduqués comme ça, et que ça les avait mis dans le droit chemin. C'est ça, la violence dite éducative. Un héritage qu'on se transmet de génération en génération, parce qu'on a toujours fait comme ça, parce qu'on n'a pas les outils ni les conditions matérielles pour faire autrement. Dans le baromètre de la Fondation pour l'enfance dont je vous ai parlé, 73% des parents, qui disent être violents, ont eux-mêmes subi ces violences dans leur enfance.
On sait bien que nous avons tous une tendance à la répétition. Qu'un enfant qui a été battu a beaucoup plus de probabilité de devenir un parent qui va être violent avec ses enfants.
Mais selon le psychiatre Serge Effèze, il est toujours possible de briser cette chaîne.
Malheureusement, ça imprime le psychisme très tôt, en termes traumatiques, et qu'il y a donc une tendance, s'il n'y a pas une résilience très forte ou une prise en compte de soi-même très très forte, de le répéter, tout ça on le sait. Donc il y a une importance capitale pour les enfants d'éradiquer ou de lutter plutôt contre la violence qu'ils peuvent subir. On peut aider un parent qui a des mouvements de violence avec son enfant en lui disant que c'est beaucoup mieux de parler calmement avec l'enfant après, de s'en excuser auprès de lui dire qu'on est désolé, qu'on se rend compte que c'est pas bien ce qu'on a fait, mais que c'est plus fort que soi, que d'ailleurs que soi-même, quand on était enfant, on a vécu telle et telle chose et qu'on était très malheureux. Voilà, il y a aussi des possibilités de réparation.
Comment endiguer ces violences si répandues? On ne parle pas d'exception là. Seulement 6 de mes 25 élèves disent n'avoir jamais été frappés par un adulte. J'ai obtenu le même résultat sur une classe de CM2 une autre année. 6 élèves sur 30 n'avaient jamais été violentés. Comment se fait-il que si peu d'enfants en France sont élevés sans violence? Est-ce que ça vient du fait que 37% des gens ignorent la loi de 2019? Ou qu'un parent sur 3 pense qu'il est difficile, voire impossible, d'élever son enfant sans fessée? Peut-être que la Suède a une partie de la réponse, puisque le pays a interdit les châtiments corporels en 1979. C'était il y a 40 ans. Nous, ça fait à peine 4 ans. Cette loi, très discutée au moment de son vote, a complètement changé le rapport des Suédois et des Suédoises à l'éducation. Là-bas, on estime que 14% des enfants ont déjà été frappés par un adulte.
Il faut faire aussi attention, bien sûr, aux caricatures qui sont faites sur la manière dont les Suédois et Suédoises élèvent leurs enfants. On a beaucoup cette réputation en Suède d'élever des enfants rois qui n'auraient aucune limite et qui auraient le droit de tout. C'est pas le cas.
Élise Devielle est sociologue. Elle a comparé l'éducation sexuelle en France et en Suède.
Bien sûr, les enfants suédois sont respectueux aussi de leurs parents, des adultes, etc. Mais la vraie différence, c'est que la tolérance à la violence en Suède est très basse et qu'aucune violence n'est considérée comme acceptable sur les enfants. Là où en France, on est encore dans un débat sur « Ah oui, mais il y a des bonnes claques et des mauvaises claques, il y a des violences qui sont éducatives et celles-ci, c'est pour apprendre à l'enfant, etc. » En Suède, on est complètement passé à autre chose. Les Suédois et Suédoises considèrent les enfants comme des personnes. Des petites personnes qu'il faut accompagner au quotidien, mais qui sont des personnes, et donc à ce titre, qui ont des droits, bien sûr des devoirs, mais aussi des droits, et que ces droits doivent être respectés. En France, on est encore plutôt sur une vision pyramidale de la famille, avec les adultes en haut et les enfants en dessous. Et voilà, cette domination adulte, elle continue d'avoir lieu aujourd'hui.
La violence vécue par mes élèves n'est pas seulement le fait de parents excédés ou démunis qui craquent. Elle vient aussi du rapport que nous avons aux enfants, qui est encore un rapport vertical, de domination. On attend d'eux qu'ils nous obéissent, qu'ils se tiennent à carreau, qu'ils ne débordent pas. Dans son documentaire, Et même qu'on est imbattable, la réalisatrice Marion Quercq interroge des parents suédois dans la rue en leur demandant s'il leur est déjà arrivé de taper leur enfant. Ils ont tous des regards ahuris et demandent même à la réalisatrice si elle plaisante. En Suède, ils ont mis l'enfant au centre de l'éducation. Si vous voulez en savoir plus sur le modèle suédois, je vous conseille de lire le livre de Marion Quercq, Une enfance en or. Là-bas, ils ont même une héroïne nationale qui incarne ça.
Säg mig, vad heter du, min lilla vän?
Jag heter Pippi Långstrump.
Pippi Långstrump. Fifi Brindacier.
Men ja.
La petite fille aux tresses oranges dressées sur la tête. La plus forte du monde, mais aussi la plus gentille. Elle vit seule et se moque des règles et du sérieux des adultes. Son autrice, Astrid Lindgren, figure aujourd'hui sur les billets de 20 couronnes, aux côtés de son personnage qu'elle a créé dans les années 40. Astrid Lindgren était une grande militante de l'éducation sans violence. En 1978, à la remise du prix de la paix des libraires en Allemagne, elle a tenu ce discours.
Combien d'enfants ont reçu leur première leçon de violence de ceux qu'ils aiment, de leurs propres parents, et ont ensuite transmis cette leçon de génération en génération ? Les dictateurs, les tyrans, les oppresseurs, les tortionnaires. Comment était leur enfance? Nous avons déjà, et même sans guerre, tant de cruauté, de violence et d'oppression sur Terre. Les enfants ne l'ignorent certainement pas. Ils voient, entendent et lisent quotidiennement à ce sujet et finiront par croire que la violence est un état naturel. Alors ne devrions-nous pas, au moins dans nos maisons, montrer qu'il existe une autre façon de vivre? Peut-être cela finirait-il par devenir une petite contribution à la paix dans le monde.
Classe, classe.
Yes, yes.
Là, ce volume est trop fort. Il y a des enfants qui travaillent déjà. Donc
qu'on baisse d'un ton là. Allez, on rentre.
On éduque les enfants en partie avec l'éducation qu'on a reçue. Et personne n'a la science infuse. Mais je pense sincèrement qu'on pourrait devenir de meilleurs adultes pour eux si on se souvenait de l'enfant qu'on a été, de ce qu'on a ressenti, de ce qu'on aurait voulu du haut de nos 6, 7 ou 8 ans. Moi, je me souviens avoir été très impressionnée et même avoir eu peur de mes professeurs, de leurs cris, de leur sévérité. Alors je m'applique à ne pas être cette maîtresse pour eux, à ne pas les écraser de mon autorité, mais plutôt à les aimer suffisamment pour qu'elles se sentent en confiance avec moi et libres d'être mêmes.
Maîtresse, mon petit frère, il est né pendant les vacances.
Oh, super. Alors, comment il s'appelle?
Aimé.
Tu l'as vu, du coup?
Oui, comme...
Il est trop mignon.
Ouais, il est super léger.
Tu l'aimes déjà?
Ouais.
Maîtresse, pourquoi il y a une grande chaise?
À suivre, dans Le cœur sur la table.
Découvrez vite la première ovo-sitcom de Paradiso Media, Marie et les œufs en neige.
Marie, c'est moi, et j'ai 36 ans. L'année dernière, j'ai eu un déclic. J'ai réalisé que j'étais célibataire, que j'avais pas d'enfants, et que bientôt il serait trop tard pour en avoir des enfants. Alors je me suis posé plein de questions. Est-ce que je congèle mes ovocytes? Comment j'en suis arrivée là? Est-ce que j'en veux, des enfants? Et surtout, pourquoi on fait des enfants, en fait? Cette question-là, je l'ai posée à beaucoup de monde. Et vous allez voir, c'est pas simple.
Marie et les œufs en neige, c'est une série en 6 épisodes à écouter dès maintenant dans le podcast Journal Intime.